Première épître à Timothée, chapitre 2. Nous relirons à partir du verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, témoignage qui devait être rendu en son propre temps, pour lequel, moi, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des nations dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. De même aussi, que les femmes se parent d'un costume décent, avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or ou de perles ou d'habillements somptueux, mais par de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, et puis Ève, et Adam n'a pas été trompé, mais la femme, ayant été trompée, est tombée dans la transgression. Mais elle sera sauvée en enfantant, si elle persévère dans la foi et l'amour et la sainteté, avec modestie.
La dernière fois, nous avons étudié plus particulièrement le début du chapitre 2, à peu près jusqu'au verset 4. Nous avons rappelé que dans le premier chapitre, nous avons vu Dieu sous l'aspect du Dieu sauveur, du Dieu qui donne sa grâce et sa miséricorde. C'est donc naturellement que maintenant, on voit que avant toute chose, il désire que dans sa maison, on supplie, on prie, on intercède, on rende grâce pour tous les hommes, avec amour. Sa maison est une maison de prière avant tout. Pourquoi doit-on prier pour tous les hommes ? Cela nous est indiqué ici certainement parce qu'il est bon pour notre Dieu Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés, de faire avancer l'Évangile dans un environnement paisible et propice. Ainsi, nous pouvons, dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille et dans l'Assemblée, prier pour la paix dans le monde, dans notre ville et dans notre cœur. Peu importe les circonstances extérieures, mais pour que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Comment pourrait-il y avoir pour tous les hommes cette possibilité de rentrer en relation avec le seul Dieu, sans l'intervention du médiateur, du verset 5 ? Le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est ce que nous allons voir maintenant, à partir du verset 5.
Dans la première partie du chapitre 2, donc, nous avons vu que la maison de Dieu nous est présentée comme une maison de prière. À partir du verset 5, nous est présentée deux grandes vérités du christianisme. La première vérité, c'est que Dieu est un. Et la deuxième vérité, c'est que le médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, est un, c'est-à-dire qu'il est unique. Donc nous habitons dans la maison de Dieu. Et si nous lisons au chapitre 4, juste une expression du verset 10, nous voyons que Dieu est présenté comme le Dieu vivant. Et donc la première grande vérité du christianisme, c'est que Dieu est un et il est unique. Cette vérité nous est présentée dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on peut lire deux versets qui évoquent cette vérité, mais cette vérité est présentée et manifestée dans toute son importance dans le Nouveau Testament. Pouvons lire par exemple dans la Genèse, le premier verset de la Genèse. Premier chapitre, premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La note nous dit que Dieu ici, en hébreu, est Elohim. Pluriel d'Eloah, le Dieu suprême, la déité dans le sens absolu. Et il nous est dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et Elohim est au pluriel et en hébreu, le verbe créer est au singulier. C'est-à-dire que déjà dans le premier verset de la parole de Dieu, Dieu nous est présenté comme étant pluriel et unique. Et cette vérité nous est présentée aussi à travers le verbe créer qui est au singulier. Il y a un deuxième verset qui nous parle de ce fait, c'est dans le Deutéronome. Chapitre 6 du Deutéronome, verset 4, où il nous est dit, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. » Un seul Éternel. Dans le Nouveau Testament, il faut arriver au baptême de Jean pour voir que ce Dieu unique, eh bien, il est aussi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons lire dans l'Évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 3. Donc nous voyons Jésus au baptême de Jean, verset 16, « Et Jésus, ayant été baptisé, remonta aussitôt de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, Et voici une voix qui venait des cieux, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Encore une des premières grandes vérités du christianisme dans le Nouveau Testament nous est présentée toujours Dieu comme un Dieu unique. Dieu est un, mais il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si nous lisons encore à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous voyons dans ce verset qu'il ne nous est pas dit pour les noms, mais il nous est dit pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que cette vérité, que Dieu est un, est exprimée dans le fait ici que c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas les noms, mais le terme grec est très précis, c'est le nom. La deuxième grande vérité qui nous est présentée dans ce deuxième chapitre de la première épître à Timothée, c'est qu'il y a un seul médiateur. Le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le médiateur, ici, nous est présenté sous trois caractères. Le premier caractère, c'est qu'il est unique. Il y en a un seul et il n'y en a pas d'autre. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, c'est l'homme Christ Jésus. Il y en a un seul et il n'y en a pas d'autre. Et nous savons que l'Église catholique romaine, la papauté, donc, a mis en avant d'autres intermédiaires, d'autres médiateurs, mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le deuxième caractère de ce médiateur, c'est que c'est un homme. Pourquoi Dieu nous a donné un médiateur qui est un homme, c'est-à-dire que l'homme ne pouvait pas s'élever jusqu'à Dieu, et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, nous a donné un médiateur, son propre Fils, qui est descendu sur cette terre. Et quelle grâce manifestée de Dieu envers tous les hommes. Et le troisième caractère de ce médiateur, c'est qu'il s'est donné en rançon pour tous. On pourra peut-être développer ce sujet.
Dans Deutéronome 9 ou 6, verset 4, qu'il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre, si ce n'est moi. On peut lire justement le verset aussi en Ésaïe, chapitre 45, les versets 21 et 22 qui nous rappellent cela.
Ésaïe 45, verset 21. Déclarez et faites-les approcher. Oui, qu'ensemble ils consultent. Qui a fait entendre cela d'ancienneté? Qui l'a déclaré dès longtemps? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et hors moi, il n'y a pas de Dieu. De Dieu juste et sauveur, il n'y en a point si ce n'est moi.
Voyons au verset 6 que l'homme Christ Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même. C'est une expression que nous trouvons dans les épîtres, je crois, 6 reprises, peut-être aussi dans l'évangile de Matthieu. Peut-être pas exactement dit de la même façon. Je ne retrouve pas. L'homme Christ Jésus qui s'est donné lui-même. Nous avons aussi cette expression dans l'Épître aux Galates. Au premier chapitre. Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Premier chapitre, verset 4. Au chapitre 2, au verset 20, des Galates aussi, nous trouvons le Fils de Dieu, à la fin du verset 20, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, nous avons aussi cette expression, le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Toujours dans ce chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, au verset 25, Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Dans l'Épître à Tite, je crois que nous trouvons aussi cette expression, chapitre 2, la fin du verset 13, notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous rachetât de toute iniquité. Dans cette expression, que Christ, l'homme Christ Jésus, s'est donné lui-même en rançon pour tous, nous comprenons que tout ce qui était nécessaire pour notre salut a été accompli à la croix par Christ. Il s'est donné lui-même volontairement et son sang maintenant est à la disposition du plus misérable des hommes, puisque nous avons cette expression, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Mais il y a aussi la responsabilité de chaque homme. Et il y a une expression dans l'Apocalypse. On y passe peut-être. Dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, au verset 17, à la fin du verset 17, il nous est dit « Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. » D'un côté, nous avons la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est le désir du cœur de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Mais nous voyons que dans l'Apocalypse, il faut que ce désir dans le cœur de l'homme, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Dieu a donné son propre Fils. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Mais nous voyons qu'il y a la responsabilité de chaque homme que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Est-ce que s'il y avait quelqu'un ici dans cette salle, eh bien, il faut que dans son cœur naisse ce désir d'être sauvé et qu'il prenne ainsi gratuitement de l'eau de la vie qui est mise à sa disposition par ce Dieu sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés.
Citer donc Marc, tu as cherché avant, Marc 10, 45, on peut lire le verset.
Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs.
Ici, c'est un rançon pour plusieurs. Alors que dans ce que nous avons lu, il s'est donné lui-même pour tous. Pour tous. Un rançon pour plusieurs, nous avons là l'expiation. Mais là, nous avons celui qui est notre intermédiaire entre Dieu et nous. Donc il veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité. Et en Marc 10, 45, il veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient sauvés.
Pour donner sa vie en rançon pour plusieurs.
Pour plusieurs. Les plusieurs peuvent dire que Christ a expié nos péchés. Nous avons lu avant, c'est pour tous. Donc, c'est pour tous, c'est pour le monde entier. Il veut sauver tous les hommes qui viennent à la connaissance de la vérité. C'est à la volonté de Dieu qu'ils viennent à la connaissance de la vérité, que tous les hommes soient sauvés. Et nous avons dans 2 Pierre 3 que nous avons bien que tous les hommes, il veut que tous les hommes se repentent. 2 Pierre 3, 9, il veut que tous les hommes soient sauvés et viennent et se repentent, viennent à la repentance. Donc, ici, en Marc 10, 45, c'est ceux qui sont sauvés pour plusieurs. Et nous faisons partie de ces plusieurs dont Christ a donné sa vie pour nous, en rançon pour nous.
Nous pouvons lire donc dans la première épître de Jean, au deuxième chapitre, au deuxième chapitre, 1 Jean, verset 2. Et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. En rançon pour tous, nous avons aussi cette expression que Robert vient d'évoquer, que le Seigneur, il est mort pour tous. C'est dans 2 Corinthiens 5, cette expression qu'on retrouve à deux reprises. 2 Corinthiens 5. Verset 14. En ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous. Et au début du verset 15 encore, et il est mort pour tous. Il faut comprendre que dans la parole de Dieu, la propitiation est pour tous. Et la propitiation est le fondement sur lequel tout repose. C'est-à-dire que le Seigneur, par son sacrifice expiatoire, a satisfait à toutes les exigences de Dieu qui étaient contre nous. Et ces exigences ont été parfaitement satisfaites. Toutes les questions qui ont été soulevées par les péchés des hommes, par nos péchés, eh bien, Dieu les a réglés parce que Jésus-Christ a fait propitiation pour le monde entier et pour l'éternité. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que dans la première épître aux Romains, le premier sujet à propos de l'évangile que présente l'apôtre Paul, c'est la propitiation. Et la propitiation est pour tous. Christ est mort pour tous. Mais un peu plus loin, on va pouvoir peut-être lire les versets, c'est chapitre 3, verset 25. Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Donc le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. La propitiation, elle est pour tous. Mais si nous lisons, nous tournons la page, je retrouve le verset 25, nous voyons que notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. La propitiation est pour tous, la mort de Christ est pour tous, et il nous appartient donc à saisir par la foi son œuvre expiatoire à la croix. Et quand nous saisissons que Christ est mort pour tous, qu'il a donné sa vie volontairement pour tous, si nous saisissons cela par la foi, nous comprenons après que Jésus-Christ à la croix a pris notre place et il a été notre substitut. Le mot « substitut » ou « substitution », nous ne le trouvons pas dans la parole de Dieu, mais nous savons que, et nous comprenons à travers les Écritures, en particulier dans le Nouveau Testament, que Christ a pris notre place sur la croix et il a porté nos péchés en son corps sur le bois. La propitiation est pour tous, pour tous les hommes, pour le monde entier. Eh bien, nous devons accepter et saisir par la foi que Christ est mort pour tous et pour chacun de nous.
On peut ajouter aussi dans l'épître de Jean, 1 Jean 4, verset 10 et le verset 14.
En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Verset 14. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde.
Puis aussi Romains 3, 25, on peut aussi lire.
Romains 3, verset 25. Dieu a présenté pour propitiatoire, c'est-à-dire dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu.
Et parler de rançon, il est peut-être bon de se rappeler ce que c'est qu'une rançon. Une rançon était, dans l'histoire, c'est ce qu'on apprenait à l'école dans les cours d'histoire. Je me souviens vaguement d'une histoire, je crois, de Du Guesclin, qui était fait prisonnier par les Anglais et qu'il fallait payer une rançon pour qu'il le libère. Autrement dit, il fallait que le roi de France paye une grosse somme d'argent pour libérer son soldat, son général. C'est ça l'idée de la rançon. Qui va payer cette somme? Qui va payer? Celui qui est prisonnier ne peut pas la payer, la somme est beaucoup trop énorme. Qui va payer? Et c'est bien la question qu'on a là. La dette que nous avons tous devant Dieu est énorme. Personne de nous ne peut la payer. Et c'est cette image que l'Esprit-Saint utilise là pour parler de l'œuvre du Seigneur Jésus qui s'est donné lui-même en rançon. Il n'a même pas payé en puisant dans un trésor pour donner de l'argent ou d'or, non. Qu'est-ce qu'il nous est dit en 1 Pierre 1 on peut rappeler juste ces expressions qui sont précieuses. Verset 18, « Vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous a été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous qui par lui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire. » Un enchaînement de choses là très riche, mais l'idée que je voulais relever, c'est justement ce contraste qui est mis entre payer une dette énorme avec de l'argent ou de l'air, non, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il pouvait payer? Le sang précieux de Christ. J'ai l'homme Christ Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Témoignage, et la suite nous le dit aussi, témoignage qui devait être rendu en son propre temps. Ça fait écho à ce que nous rapporte ce qu'on vient de dire dans Pierre. Et puis si je reviens juste un peu en arrière sur ces versets, on peut se poser la question, mais pourquoi Paul n'arrête pas ce qu'il vient de dire avant là, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Point. Oui, voilà. Pourquoi est-ce que la parole nous dit plus? Car Dieu est un. Pourquoi est-ce qu'il y a cette précision qui est apportée? Je crois que là, on peut faire un petit parallèle. En même temps, parallèle et contraste avec ce que nous présente l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux nous présente le Seigneur comme étant le sacrificateur selon la pensée de Dieu. Qu'était le sacrificateur? Il était l'intermédiaire, le médiateur, c'est la même chose que l'intermédiaire, entre Dieu et les hommes. Mais l'Épître aux Hébreux nous montre combien le sacrificateur selon la chair, Aaron, les fils d'Aaron, était faillible. Il devait offrir des sacrifices pour lui-même avant de pouvoir offrir des sacrifices pour le peuple. Il mourait, donc il devait être remplacé par un successeur. La mort était là qui rappelait toute la faiblesse de ce service d'intermédiaire entre le peuple et Dieu, entre Dieu et le peuple. Et l'Épître aux Hébreux, comme son nom l'indique, s'adresse aux Hébreux. Alors que là, on a des allusions à ce qui est le contexte judaïque, par exemple ce qu'on a vu, le mauvais usage de la loi, qu'on a vu au chapitre 1er, mais Paul rappelle au verset 7 qu'il est docteur des nations, qu'il a été établi docteur des nations. Et les rappels, les encouragements qu'il fait à Timothée est plus en vue de ce service pour l'incirconcision, pour les nations. Et alors là, c'est placé les hommes, tout homme, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, les nations, tous les hommes des nations, et que la pierre de touche, les pierres de touche, c'est Dieu est un, le médiateur entre Dieu est un. Et qui est-il ce médiateur? Il est l'homme Christ Jésus. Si on reprend juste un peu en acte 13, en acte 14, on a une situation où justement Paul et Barnabas se retrouvent dans un contexte complètement idolâtre. Quand ils sont à Lystre, ils ont guéri cet homme impotent. Et puis, alors qu'ils ont guéri cet homme impotent, quelles sont les réactions des foules? Verset 11. Elles élèvent leur voix, disant en lycaonien, « Les dieux, s'étant fait semblables aux hommes, sont descendus vers nous. » Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Et le sacrificateur, verset 13, du Jupiter qui était dans la ville, il veut offrir des sacrifices. Il amène des taureaux, etc. Et plus loin, Paul et Barnabas, verset 14, « D'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et s'élancèrent dans la foule, s'écriant et disant, « Hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Nous sommes, nous aussi, des hommes ayant les mêmes passions que vous. Et nous vous annonçons que de ces choses vaines, vous vous tourniez vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. » Il y a là, face à un contexte idolâtre, mettre en contraste Dieu qui est un, face à tous ces dieux. Et le seul médiateur, non pas le sacrificateur du Jupiter de cet endroit-là, mais l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon, qui a donné un prix que aucun de ces sacrificateurs idolâtres n'était prêt à payer. Non, mais ça, Christ l'a fait. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il a payé pour tous. Bien sûr, n'en profitent que ceux qui le reçoivent comme tel. Mais l'œuvre du Seigneur est suffisante pour tous. Et on a là cette précision par rapport à quelque chose, un message qui est plus universel, si je peux dire, que celui qui est de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux s'adresse aux Hébreux pour les aider à comprendre que la loi, le système judaïque avec la loi, les sacrifices, le temple, sont une chose passée, remplacée par des choses meilleures. Christ, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Mais parler de ça à quelqu'un des nations, c'est parler à un langage incompréhensible. Qui est Melchisédek? Qui sont les fils d'Aaron? Ils ne connaissent pas tout ça. Donc le Seigneur Jésus est présenté là, comme l'intermédiaire, le médiateur unique entre Dieu qui est un et les hommes. Et pourquoi a-t-il ce droit, ce titre d'être médiateur unique? Parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et la suite, le verset 7, la fin du verset 7, Paul introduit, rappelle que voilà, le service qui lui a été confié, c'est justement cela. Il a été envoyé pour être ce prédicateur, pour annoncer cela aux nations.
On peut ajouter aussi que dans le Deutéronome, le passage que nous avions lu, Dieu était le Dieu d'un seul peuple, c'était Israël. Et dans 1 Timothée 2, maintenant c'est un Dieu sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire au fond, ce n'est plus un Dieu pour un seul peuple, mais c'est pour tous les hommes. Il veut être le Dieu pour tous les hommes. Encore un mot sur les médiateurs. Dans l'Ancien Testament, Moïse a été un médiateur entre l'Éternel et le peuple d'Israël. Dans le livre de Job, on peut lire aussi un ou deux passages qui nous montre au fond que les hommes ont toujours désiré un médiateur. Et nous voyons dans Job, en particulier au chapitre 9, au verset 33, le souhait de Job, c'était qu'il y ait donc entre nous, entre Dieu et lui-même, un arbitre qui mettrait sa main sur nous deux. Et la petite note F nous dit que c'était un médiateur. Et dans toutes les affaires humaines, quand il y avait des difficultés ou des oppositions entre les hommes, eh bien, on a toujours cherché des médiateurs. Des médiateurs qui puissent apaiser les contradictions, les oppositions, en donnant une solution humaine. Et toujours dans le livre de Job, au chapitre 33, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, verset 24, il nous est dit: délivre-le pour qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une propitiation. Et la petite note nous dit une rançon. On voit que dans la parole de Dieu, la propitiation est toujours liée à une rançon. Il y avait un gouffre entre Dieu et entre les hommes, et ce gouffre, c'est le péché, ce sont nos péchés. Et ce gouffre, eh bien, il devait être réglé à un moment donné, la question du péché devait être réglée entre Dieu et les hommes. Et donc, nous avions besoin d'un médiateur. Un médiateur. Nous ne pouvions pas nous élever jusqu'à Dieu, mais un médiateur que Dieu aurait envoyé et agréé. Et le médiateur que Dieu nous a envoyé, c'est son propre Fils. C'est l'homme Christ Jésus, mais qui était aussi le Fils éternel de Dieu. Alors juste sur ce chapitre 33 de Job. À propos de cette propitiation, à propos de cette rançon. Dans le passage de ce passage de Job 33, à partir du verset 14 jusqu'à la fin, nous voyons que Dieu donne différents moyens à l'homme pour qu'il réalise qu'il a besoin d'un Dieu sauveur. Et simplement les citer, mais cela mérite sans doute la méditation de nos cœurs, parce que Dieu, à tout homme, eh bien, il présente le salut. Mais pour cela, il utilise différents moyens. Alors, par exemple, au verset 14, il nous est dit « Car Dieu parle une fois et deux fois, et l'on n'y prend pas garde. » Donc, il nous est dit que Dieu parle. Et comment parle-t-il ? Mais par sa parole, par la parole de Dieu, par la Bible. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, quand Dieu parle à un homme, s'il n'est pas écouté, eh bien Dieu renouvelle son message. Et si sa voix n'a pas été écoutée, eh bien il parle à nouveau. Dieu parle une fois et deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Le premier moyen qu'utilise Dieu pour attirer les hommes à Jésus-Christ, c'est sa parole. Et dans sa grâce, Dieu parle une fois, on ne l'écoute pas, il parle deux fois. Et nous avons tous à prendre garde quand Dieu parle une fois, et dans sa bonté et dans sa grâce, il renouvelle son appel. Le deuxième moyen que Dieu utilise, c'est le verset 15. Dans un songe, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils dorment sur leur lit, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle l'instruction qu'il leur donne. C'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu peut nous parler à travers un songe, à travers une vision de nuit. Qui ne se souvient pas que d'avoir fait des cauchemars épouvantables dans sa jeunesse? Eh bien, avec une impression de mort imminente, et on se réveille, et puis on est bien content de se retrouver bien vivant. Et le songe, Dieu nous a parlé à travers aussi des songes. C'est un deuxième moyen que Dieu peut utiliser, des songes, des cauchemars. Et puis on se réveille, et puis on est bien heureux de se retrouver en bonne santé et vivant, alors qu'on avait un sentiment de mort imminente peut-être dans ce songe. N'oublions pas, c'est la parole de Dieu qui le dit, que Dieu peut nous parler aussi à travers un songe, à travers des rêves. Le troisième moyen que Dieu utilise, c'est au verset 18. Il préserve son âme de la fosse et sa vie de se jeter sur l'épée. Et qui c'est qui ne se souvient pas d'avoir été préservé dans sa vie d'un accident? Qui c'est qui ne se souvient pas, de, en conduisant une voiture, d'être distrait et puis tout d'un coup, alors que la voiture allait partir peut-être dans le fossé à grande vitesse, eh bien, chose miraculeuse, Dieu a intervenu sans que nous nous en rendions compte et il a préservé notre âme de la fosse et notre vie de se jeter sur l'épée. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser des moyens vis-à-vis des hommes en les préservant d'une mort imminente par un accident. Mais à ce moment-là, Dieu parle. Il intervient, il préserve cette âme de la fosse, de mourir, mais parce que Dieu a toujours en vue le salut de tous les hommes. Le quatrième moyen que nous avons, nous l'avons entre le verset 19 et le verset 22, qui nous parle plutôt d'un lit de douleur, un lit de maladie. C'est-à-dire qu'il semble que la maladie est au-dessus de tous les moyens médicaux, Et au verset 22, il nous est dit « Et son âme s'approche de la fosse et sa vie de ceux qui font mourir. » C'est-à-dire que miraculeusement, alors que le cas semblait désespéré, voilà un homme qui se rétablit alors qu'il était peut-être gravement malade. Mais Dieu est intervenu en grâce. Il a empêché que cette issue fatale n'arrive. Mais le but de Dieu, toujours, c'est d'attirer une âme vers lui. Et nous voyons que Job, eh bien, il nous présente différents moyens que Dieu emploie d'une manière générale dans la vie des hommes. Et parce que Dieu est ce Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Le dernier moyen, nous le lisons au verset 27, il nous est parlé d'un homme qui dit « J'ai péché et j'ai perverti la droiture et il ne me l'a pas rendu ». Voyons là que Dieu entend aussi celui qui confesse sa culpabilité. C'est-à-dire qu'un homme, même s'il n'a pas été en contact avec l'Évangile, eh bien, à un moment donné, il peut se rendre compte que c'est un homme pécheur, que c'est un homme perdu, et il a cette conviction de péché, et il confesse. Verset 27, il dit « J'ai péché ». Et il n'a pas encore sans doute entendu l'Évangile. Mais Dieu désire délivrer. Dieu désire sauver et Dieu désire que cet homme qui a exprimé cette confession, eh bien, regarde à Christ qui est mort pour tous et Dieu a donné et il s'est donné lui-même en rançon et Dieu a donné son propre fils pour que nous soyons sauvés. Le livre de Job est un livre particulier qui est quelquefois difficile à comprendre. Mais nous voyons que Dieu, dans sa sagesse, d'une manière extraordinaire, il peut utiliser beaucoup de moyens inattendus pour attirer une âme à lui. Et pour que cette âme comprenne que son propre fils s'est donné lui-même en rançon pour tous.
Toujours par rapport à ce que Job a pu dire concernant le médiateur, on a lu le chapitre 9, verset 33. On peut également en trouver une autre expression qui s'en rapproche au chapitre 16 et au verset 21. Que n'y a-t-il un arbitre pour l'homme auprès de Dieu ? Et pour un fils d'homme vis-à-vis de son ami. Et ça rejoint bien ce qu'il disait au chapitre 9. Quelqu'un qui tienne ton... Il dit, il n'y a pas entre nous un arbitre qui mettrait sa main sur nous deux. Et quand nous revenons dans l'épître qui nous concerne, c'est la Timothée au chapitre 2. On nous a parlé justement de ces trois caractéristiques du médiateur. On a dit qu'il est un. Il est un et cela qualifie, Michel l'a dit justement, que le Seigneur Jésus seul, sinon cette litanie d'intermédiaire ou de médiateur ou de facilitateur que l'on s'est donné dans les religions des hommes Pourquoi ? Parce que justement, un médiateur, on l'a aussi évoqué dans les us même des hommes actuels, un médiateur doit être à même d'entrer dans des deux côtés. Bon, on ne va pas faire allusion à ce qui se passe présentement, mais un médiateur doit être à même d'avoir accès à la partie, dans les deux parties, la partie qui est en conflit avec l'autre. Alors que justement, quand il y a conflit, il y a blocage, il y a interruption de communication, il y a interruption de compréhension. Et on disait que le Seigneur est qualifié parce que, nous le savons, lui est l'homme, mais l'homme parfait, qui entre pleinement dans ce que le cœur de l'homme peut connaître comme exercice, comme circonstance. Et je crois que Jacques a fait allusion justement à ce qui nous est présenté dans Hébreux. Il dit qu'il peut sauver pleinement. Bon, c'est vrai que là, c'est pour le cas de sauver pleinement, mais on comprend que, étant homme, il reste homme dans les cieux. Eh bien, le Seigneur Jésus peut dire des choses que seul un homme peut ressentir à Dieu. Mais de l'autre côté, c'est Dieu qui s'est fait homme, et là aussi on l'a dit, c'est avec la pleine approbation de Dieu, étant Dieu, qu'il peut parler à l'homme avec le langage des hommes, et donc il vient ainsi faire ce pont-là, si on a, je ne sais pas si on a déjà utilisé ce mot-là justement, ce pont entre ce qui était séparé par un gouffre profond, d'où justement ça qualifie le Seigneur et le Seigneur seul pour être justement ce médiateur. Donc pour nous, quelle grâce de savoir que le Seigneur n'est pas seulement dans les cieux, mais il connaît pleinement ce que nous pouvons rencontrer. Bien sûr, il a été dans ces circonstances, il a eu faim, il a eu soif, il a connu l'épreuve de la séparation, de la mort d'un être cher, il a connu l'abandon, et il peut donc intercéder. Si on prend cet autre attribut qu'il a, il peut donc entrer dans nos circonstances et ainsi en parler à Dieu, et donc parler aussi pleinement, et là il l'a fait, de Dieu à nos cœurs avec un langage d'homme. Et il y a un autre point justement sur lequel je voudrais rapidement, je ne sais pas si c'était ce passage que Michel avait évoqué dans Matthieu au chapitre 20, verset 28. Bon, c'est vrai qu'on a lu un autre, c'est juste pour l'ajouter. On peut lire au chapitre 20, verset 28. « De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Et pour faire un peu, comment est-ce que, moi ça me permet de me retrouver un peu, on a parlé justement de cette plusieurs, ça, et Robert l'a dit, c'est le résultat de ces plusieurs-là, donc c'est ceux qui ont accepté cette œuvre de la croix, qui ont accepté cette œuvre que le Seigneur a accomplie, donc qui s'en sont appropriés, donc c'est le résultat, et pour tous, là aussi on l'a dit, c'est l'étendue de l'œuvre, donc c'est suffisant. Tout le monde peut s'en approprier, mais malheureusement tout le monde ne va pas s'en approprier. On a parlé de l'orgueil de l'homme, on a parlé du fait que l'homme, on a essayé évoqué dans l'Apocalypse, où ne veut pas, parce qu'il ne veut pas se reconnaître pécheur perdu. Donc c'est un peu aussi pour voir un peu le côté de la substitution, voilà, de la propitiation, et le côté justement de l'expiation. Dieu a tout fait. Hélas, il n'y aura qu'une partie de l'humanité qui va en bénéficier. Donc, pour cela, Dieu n'est pas responsable. C'est ceux qui n'ont pas accepté qui sont responsables de leur choix. Donc, pour faire un peu cette nuance entre la propitiation et l'expiation.
Juste pour compléter ce qui vient d'être dit, nous sommes devant un mystère parce que nous avons le médiateur entre Dieu et les hommes qui est un. Et comme nous avons dit, il est unique. Et pourquoi il est unique ? Parce que il est parfaitement Dieu dans le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, nous le contemplons sur la terre, et il est parfaitement homme. Parce qu'il a traversé parfaitement ce que nous traversons tous les jours sur la terre. Mais il est unique aussi pour une chose. Parce que étant le seul à être entièrement Dieu et entièrement homme, eh bien, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est-à-dire que non seulement il l'est, mais il le veut bien. Et il le veut bien à tel point qu'il veut bien donner lui-même ce un en rançon pour tous. Combien de fois nous voyons dans les évangiles que l'homme Christ Jésus a beaucoup d'occasions et parfaitement homme et parfaitement Dieu. Parfaitement homme quand il est enfant et qu'il apprend et qu'il est au contact et en soumission avec les plus anciens. Et parfaitement Dieu parce qu'il les étonne tous. Parfaitement homme parce que il est tenté au désert comme tout le monde et plus que tout le monde. Parfaitement Dieu parce qu'il ne tombe pas. Mais dans toutes ces choses-là, nous voyons que son désir est de se donner lui-même en rançon pour tous jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et quand nous le voyons sur la croix, encore une fois, parfaitement homme et parfaitement Dieu, avec ce désir dans le cœur. Et quand enfin le soldat romain vient lui percer le côté, quelle est la réponse ? Parfaitement homme, le sang coule, mais l'eau aussi. Et le centurion doit bien le reconnaître. Véritablement, celui-ci est fils de Dieu.
Quelques pensées complémentaires sur le caractère du Seigneur comme médiateur. On peut lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. Genèse 28, verset 11. Et Jacob se rencontra en un lieu où il passa la nuit. Verset 12, et il songea, et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, Évangile selon Jean, chapitre 1er, au dernier verset, verset 52. Et Jésus dit à Nathanaël, « en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Donc on voit qu'il y a bien longtemps, Dieu avait annoncé dans un songe à Jacob qu'il y aurait quelqu'un qui ferait le lien entre le ciel et la terre, qui ouvrirait ce canal de communication. Et le Seigneur lui-même le dit, il nous donne cette révélation de cette vision de Jacob, il dit qu'il est lui-même cette échelle entre le ciel et la terre. On peut lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8. Jean 8, verset 42. Au milieu, moi je procède de Dieu et je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. On peut lire également dans le livre de Job, juste un verset au-dessus de celui qu'on a lu tout à l'heure, Job 9, verset 32. Car il, Dieu, n'est pas homme comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en jugement. Et au chapitre 33 du même livre de Job, Job 33, verset 23, s'il y a pour lui, pour l'homme, un messager, un interprète, un entre mille, pour montrer à l'homme ce qui pour lui est la droiture. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er, Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Donc on voit dans ces différents passages plusieurs aspects de la médiation du Seigneur. Il est celui qui procède de Dieu, qui vient de Dieu, qui partage la nature de Dieu. Il a été cette parole faite chair, qui a habité au milieu des hommes, qui a pu être visible des hommes, qui a pu être touché, qui a pu être entendu des hommes. Il est celui qui est venu sur la mission du Père. Il n'est pas venu de sa propre volonté. Il est venu ici-bas être un interprète, un messager des paroles de Dieu pour les hommes. Il est venu leur faire comprendre ce qu'il y avait dans les pensées de Dieu. Et en ce sens, il a été un médiateur. Il est celui qui parle de Dieu aux hommes, il est aussi celui qui parle aux hommes de Dieu. On voit dans le chapitre 9 du livre de Job, il n'est pas homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en jugement. Job prend conscience de la grandeur de Dieu, qu'il n'est pas comme quelqu'un à qui on s'adresse facilement, comme son égal, il est au-dessus. Alors, il souhaite faire appel à quelqu'un qui fasse le lien, quelqu'un qui puisse défendre sa cause, la présenter devant le grand Dieu. Alors, nous en venons à Ésaïe 1, où Dieu peut dire « Venez et plaidons ensemble », comme se mettant au niveau de l'homme, venant pour parler à l'homme de ce qui fait obstacle, de ce qui est un fossé entre l'homme et Dieu. Est-ce qu'il peut dire, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine? C'est ce que le Seigneur peut nous dire également, et il peut nous le dire parce qu'il est pour nous cette rançon. Il est celui qui prend notre place. Il est à la fois notre avocat, mais il est celui par qui les exigences de Dieu sont satisfaites et en vertu desquelles il peut pardonner, en vertu desquelles il peut se montrer propice envers l'homme et effacer ses péchés, effacer l'offense qui barrait le chemin vers Dieu. Sur le fait que le Seigneur Jésus a pris notre nature pour pouvoir s'approcher de nous, on peut lire en Hébreux 2, Hébreux 2, verset 16. Car certes, il, Christ, ne prend pas les anges, mais il prend la semence d'Abraham. C'est pourquoi il dut en toute chose être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a souffert lui-même étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Au verset 16, on voit, quand il est dit « il prend la semence d'Abraham », ça veut dire qu'il prend la défense, il prend en main la cause des hommes qui sont figurativement des descendants d'Abraham, père des croyants. Et pour cela, il a dû prendre notre place comme homme, comme cela a déjà pu être dit, pour expérimenter toutes les limites du corps de l'homme, toutes ses faiblesses, ses infirmités, pour pouvoir sympathiser, pour pouvoir, étant Dieu, connaître ce que c'est pour un homme que de vivre avec ses propres limites, avec ses propres infirmités. Car dans l'office de sacrificateur, il y a une part de médiation entre Dieu et l'homme. Le sacrificateur est un messager de la pensée de Dieu. Et on voit qu'il va plus loin, il sympathise, mais en vertu de ce que lui-même a souffert comme homme ici-bas. Et l'homme peut vraiment voir dans le Seigneur Jésus, non pas un Dieu lointain, un Dieu tout-puissant, au pouvoir extraordinaire, mais il peut voir celui qui a été ici-bas son prochain, celui qui a partagé entièrement sa condition, et qui a même de sympathiser à ce qu'il est. Et enfin, on peut voir au chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux un autre aspect de cette médiation de Christ. Hébreux chapitre 8, verset 6. Or maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent, c'est-à-dire d'autant plus excellent que celui de Moïse, auquel il est fait référence avant, qu'il est médiateur d'une meilleure alliance qui est établie sur de meilleures promesses. Car si cette première alliance avait été irréprochable, il n'eût jamais été cherché de lieu pour une seconde. Verset 10. Car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. En mettant mes lois dans leurs entendements, je les écrirai aussi sur leur cœur. Et je leur serai pour Dieu, et ils me seront pour peuple. Et ils n'enseigneront point chacun son concitoyen et chacun son frère. Verset 11 au milieu, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc on voit dans ce passage que Christ est allé bien au-delà de ce que Moïse avait pu faire et pu être en faveur du peuple. Moïse avait été le médiateur pour communiquer la loi au peuple, pour communiquer une partie de l'expression de la pensée de Dieu, de ses exigences vis-à-vis de la créature. Mais le Seigneur Jésus, en vertu de sa propre œuvre, est médiateur d'une seconde alliance, d'une meilleure alliance, par son sang, qui est établi sur de meilleures promesses, des promesses qui sont établies seulement du côté de Dieu. Il n'y a pas de contrepartie qui est attendue du côté des hommes, parce que l'homme, dans l'Ancien Testament, a montré que s'il était demandé quelque chose de sa part, il avait entièrement failli. Alors Dieu fait une promesse où il n'attend rien de l'homme. Et on voit que ce que le Seigneur donne va bien plus loin que la loi, car le Seigneur va inscrire cette loi dans leur cœur, et qu'ils le connaîtront tous. Ce n'est plus une loi qui est inscrite sur la pierre, qui demande à être exécutée, qui s'adresse à la conscience de l'homme. Là, elle rentre profondément dans le cœur de l'homme, et elle révèle pleinement ce qu'est Dieu, et non pas seulement une liste de choses à accomplir pour acquérir une propre justice. Ils me connaîtront tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Et comme cela a été dit, cette alliance, elle est établie dans son sang. Lui qui est la propitiation pour nos péchés, lui qui est notre rançon, lui qui est notre substitut. Donc on voit que le Seigneur Jésus a été, de la part de Dieu, s'est envoyé pour nous communiquer les pensées de Dieu, pour être cet interprète, ce messager. Il est celui qui, en vertu duquel nous pouvons nous tenir devant Dieu et qui efface notre dette, qui fait que nous pouvons repartir sans condamnation, avec la conscience que nos péchés sont lavés. Il est celui qui met sa parole dans nos cœurs, qui nous permet de le connaître profondément et qui nous engage ainsi à sa suite à le servir non pas comme par obéissance à une loi, mais par amour pour celui qui a tant fait pour nous.